problème?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Canu, Radio Rebelle. Il est 21h tout pile, hein, et c'est l'émission Angle Mort qui prend la parole, comme je dirais pas tous les dimanches, mais quelques dimanches, de 21h à 22h. Angle Mort, une émission de critique sociale et de sciences sociales critiques. Et avec au menu de ce soir, eh bien, je vais rediffuser une partie d'une rencontre qui avait été organisée par la société Louise Michel en date du 26 juin 2014, donc qui date d'un an et demi environ, et qui est titrée Situation politique, comment reprendre la main. Il y avait deux intervenants lors de cette rencontre, Éric Fassin et Luc Boltanski. Et pour commencer, je vais passer celle de la présentation d'Éric Fassin, et je réserve celle de Luc Boltanski pour la prochaine émission, qui aura lieu la semaine prochaine, dans deux semaines, dans trois semaines. C'est très très aléatoire tout ça. En tout cas, vous savez que vous pouvez retrouver toujours, hein, toutes nos émissions sont à réécouter après coup, ou à télécharger même sur le blog de notre émission, donc sur internet, blog qu'on peut trouver sur le site de Radio Canu. connu, il faut aller sur l'onglet le blog des émissions, les blogs des émissions, je sais exactement comment c'est, et puis il faut aller sur Angle Mort, et après, eh bien, on est sur le blog d'Angle Mort, et là, on a toutes les émissions depuis le début de qu'on a commencé à faire cette émission. Voilà. Et donc oui, donc ce soir la première partie de cette rencontre, donc celle de la présentation d'Éric Fassin, qui est professeur de sciences politiques à l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, qui est un sociologue qui a compté parmi les principales figures publiques de la gauche de gauche, on va dire aujourd'hui, les figures intellectuelles, qui intervient assez souvent quand même dans les médias, même si largement moins que d'autres figures type Alain Finkielkraut, Eric Zemmour, tout ça, qui trustent partout tout en disant qu'ils sont qui rompent avec les idées reçues et qu'on les empêche de parler, mais en même temps ils sont omniprésents et ils sont partout et on n'entend qu'eux. Bon, donc Éric Fassin est quand même un de ceux qui intervient assez souvent dans les médias pour dire des choses intéressantes. Et donc une figure, voilà, de la gauche de gauche, critique, qui a travaillé, lui, sur la sexualité, le genre, les discriminations racistes, les Roms, voilà. Donc sur plusieurs thèmes, même si souvent il y a derrière cette idée de discrimination qui est présente. Alors cette conférence a eu lieu, donc je disais, en 2014, à l'occasion de la parution de deux petits livres, du genre plutôt de l'essai politique plutôt que de l'enquête sociologique, même si ces deux livres s'appuient sur des années sociologiques. Donc d'une part le livre d'Éric Fassin, donc intitulé Gauche, l'avenir d'une illusion, et d'autre part le livre de Luc Boltanski et Arnaud Esquéré, intitulé Vers l'extrême, extension des domaines de la droite. Et c'était deux livres qui est paru en 2014, donc la même année, hein, et qui reviennent sur ce qu'on pourrait appeler l'hégémonie idéologique actuelle des thèses de droite extrême. On pourrait dire aussi sur la droitisation du champ politique qu'on connaît depuis, depuis quelques temps maintenant, et du monde intellectuel aussi. Donc ils réfléchissent sur cette actualité, sur cette tendance historique actuelle qui est quand même relativement déprimante. Et il tente d'apporter quelques pistes pour renverser la vapeur, on va dire. Et donc c'est leurs propos respectifs restent tout à fait d'actualité, malheureusement. Alors après, des fois ça peut être, bon, c'est des interventions très rapides, hein, celle que je vais passer ce soir dure 25 minutes. Chacun se fera son idée. Des fois, ça peut paraître comme des généralités, mais en même temps, je pense que c'est bien de les réentendre. Et voilà, de manière générale, je trouve qu'il y a des choses relativement intéressantes qui sont dites. Après la diffusion, moi, je pourrais peut-être un petit peu discuter. Donc, c'est la présentation d'Éric Fassin. Avec beaucoup d'humilité. et puis on passera aussi du coup un peu de musique, hein, lors de cette émission, et notamment, donc là pour l'instant, pour commencer, on va se passer Portobello Bones avec le titre Europe. Radio Canu, émission Angle Mort. We'll be right back. Ah, coupure un peu abrupte quand même de cette fin de chanson, j'en suis navré. Et donc je lance, comme je l'ai annoncé en début d'émission, cette conférence, cette intervention d'Éric Fassin à la Société Louise Michel le 26 juin 2014, intitulée « Situation politique, comment reprendre la main ?»
La première chose, puisque le titre « Reprendre la main » est aussi le titre des chapitres que j'ai proposé, je dirais d'abord que pour ma part, je l'ai emprunté à un des penseurs de la droite contemporaine, à savoir Hervé Mariton. Hervé Mariton, vous le savez peut-être, avait publié pour l'UMP un rapport qui s'intitulait « Reprendre la main sur les questions de société ». C'était un peu avant le changement de présidence, et j'avais trouvé que ce document était très intéressant parce qu'il dessinait, premièrement, ce qui allait devenir le programme de la droite une fois François Hollande élu, en particulier autour de la question de ce qu'il est convenu d'appeler le mariage pour tous, premièrement, mais deuxièmement aussi, que ce que faisait ici Hervé Mariton, eh bien, c'était de proposer une réflexion stratégique. C'est-à-dire que l'argument qui était donné par Hervé Mariton, il me paraissait très bon à penser pour la gauche. Ce qu'il disait, c'est jusqu'à présent, on a réussi à imposer notre langage dans tous les domaines. En matière d'économie, en matière d'immigration. Il n'y a qu'un domaine où ça ne marche pas encore, c'est le domaine des mœurs ou des questions sexuelles, toutes les histoires qui vont du pacte sur mariage pour tous, où la droite, disait-il, est sur la défensive. Donc son idée, c'était d'étendre la logique qui avait déjà marché, la logique d'hégémonie idéologique qui avait déjà marché dans d'autres domaines, et d'essayer de faire en sorte qu'elle puisse s'appliquer aussi dans le domaine des mœurs. Alors mon but ici n'est pas de réfléchir sur la question spécifique des mœurs, de la sexualité du genre. J'ai eu l'occasion, y compris dans le cadre de la société Louise Michel, de le faire il n'y a pas si longtemps. Mais ce que je voudrais faire plutôt, c'est utiliser ça comme un outil de réflexion, c'est-à-dire se poser la question de, après tout, comment on fait pour imposer son hégémonie idéologique. Alors, cette proposition, elle a en ce moment deux dimensions. L'une, c'est comment la droite a réussi, et l'autre, c'est comment on pourrait faire bouger les choses dans un autre sens. Je vais commencer, et c'est ce que j'ai fait dans ce petit essai, par la première partie, c'est-à-dire le triomphe hégémonique de la droite. Et de ce point de vue-là, bien entendu, je crois qu'il faut en chercher la responsabilité en bonne partie. Du moins si on reste dans une logique d'analyse politique, il faut en chercher la responsabilité du côté de la gauche. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé pendant les années Sarkozy la droite décomplexée ne se comprend pas si on ne réfléchit pas au fait qu'il y a une gauche complexée. Les deux vont ensemble. De même qu'une droite émontée suppose une gauche honteuse. Le champ politique, ben, ça se définit les uns par rapport aux autres. Et pour ma part, donc, ce que j'ai essayé de décrire, c'est pas simplement ce que fait la droite ou ce que fait la gauche, mais la relation entre les deux, et en particulier un mouvement qui, je crois, peut se décrire rapidement, parce qu'il est familier à tout le monde. J'avais été sollicité pour écrire ce petit essai à la suite d'une tribune que j'avais publiée dans Le Monde sur la droitisation du Parti Socialiste, et une première chose qui m'a frappé, c'est qu'un des principaux reproches qui m'a été adressé, c'était de continuer d'utiliser le mot gauche à propos du Parti Socialiste. Alors que comme le but était de parler de droitisation, ça me paraissait utile à ce moment-là. Mais aussi, l'autre élément qui m'est apparu rapidement, c'est que cette proposition, eh bien, elle avait très rapidement valeur d'évidence. C'est-à-dire qu'entre le moment où c'était dit et où, au moins pour moi et quelques autres, ça avait un effet de pleine révélation, eh bien, certes, beaucoup le savaient déjà depuis longtemps, mais en tout cas, maintenant, je crois que plus personne ne l'ignore. Donc, en fait, c'est pas là, me semble-t-il, qu'il y a beaucoup à penser, il y a simplement à comprendre le mécanisme. C'est pas simplement constater le fait, mais mieux comprendre le mécanisme. Donc, le mécanisme, je crois qu'il n'est pas très difficile. Vous connaissez la formule toujours répétée par Jean-Marie Le Pen, selon laquelle les électeurs préfèrent l'original à la copie. Eh bien, si la droite imite l'extrême droite, tandis que ce qui est censé être la gauche imite la droite, on voit bien que c'est une course qui a un effet, la droitisation du paysage, mais c'est une droitisation qui va s'auto-entretenir, puisque, évidemment, la droite va devoir se démarquer de ce qui est censé être la gauche, et du coup, l'extrême droite, de la même manière, même si le paysage est un peu plus compliqué du côté de l'extrême droite, qui hésite entre deux stratégies. Donc, ce mouvement, cette espèce de logique qu'on pourrait comparer à la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on est convaincu que c'est à droite qu'on va gagner, eh bien tout le monde va à droite, et donc tout le monde va à droite, et donc la gauche en quelque sorte disparaît, ce qui finit par justifier la prémisse. Donc c'est ça le mécanisme tout simple. J'ajouterais, parce que c'est une question évidemment qui, je crois, intéresse beaucoup, on pourrait imaginer que s'il y a une droitisation du paysage politique, ça veut dire que ça laisse un espace ouvert à gauche. Or, ce qu'on constate, c'est que, en tout cas dans les urnes, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la droitisation du Parti Socialiste ait bénéficié au parti qui était à la gauche du Parti Socialiste. Donc ça marche pas comme ça. Et c'est là que précisément la question de l'hégémonie se pose. Et je décomposerai en deux logiques différentes. Il y a d'une part ce qui touche aux questions économiques. On voit bien que le fonds de commerce aujourd'hui du Front National, c'est de dénoncer l'UMPS. C'est-à-dire de dire que l'UMP et le PS, c'est la même chose. Comme en pratique le PS fait à peu près la même chose que l'UMP, on comprend que beaucoup de gens se tournent vers le Front National qui donne un verdict. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le monde se tourne vers le Front National, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui se tournent aussi vers l'abstention. Mais en tout cas, l'idée qu'il y a une logique UMPS, fonds de commerce du Front National, est en quelque sorte validée par ces partis. Mais une fois qu'on a dit ça, on imaginerait que la critique du néolibéralisme qui est proposée par l'extrême droite aujourd'hui, quelle qu'en soit la validité, on pourrait imaginer en tout cas qu'elle va bénéficier aussi à la gauche de gauche. Or, ça n'est pas le cas, et pourquoi? Eh bien, il me semble parce que la raison, c'est que en même temps, il y a une autre logique, qui n'est pas seulement la logique économique, qui est la logique qu'on pourrait appeler identitaire ou culturelle. C'est-à-dire que si on commence à regarder ce qui touche à l'islam, à l'immigration, aux Roms, etc., eh bien, on s'aperçoit que là, le consensus est beaucoup plus large, puisqu'il va du Parti Socialiste au Front National en passant par l'UMP, c'est-à-dire ce sont les mêmes questions et à peu de choses près les mêmes réponses. Donc s'il y a ce continuum sur les questions identitaires, que j'appellerais identitaire ou culturelle si vous voulez, eh bien on peut comprendre que là l'hégémonie, elle bénéficie au Front National davantage qu'à la gauche de gauche. C'est en tout cas mon hypothèse. Alors, je pense qu'une des clés pour essayer de comprendre comment le Parti Socialiste, qui était censé être un parti de gauche, a été en quelque sorte happé dans cette logique dont tout le monde voit bien qu'elle est autodestructrice, c'est-à-dire dont on voit bien qu'elle n'est pas payante électoralement, eh bien ça oblige à réfléchir sur le terme de réalisme. Le réalisme, en tout cas c'est une de mes propositions qui n'est pas non plus d'une originalité folle, le réalisme en fait c'est une idéologie qui est fondée sur l'idée que la réalité est de droite. Donc si la réalité est de droite, être réaliste, eh bien, c'est s'aligner sur les visions de droite de la réalité. Il se trouve que ce réalisme, on le voit bien en matière économique, il est constamment démenti par l'expérience. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mener une politique de droite pour que l'économie marche bien. Mais aussi, ça se translate dans le domaine qui est celui du rapport au peuple. Et c'est là que je voudrais en venir. Le rapport au peuple, c'est quoi? Eh bien, c'est l'idée que non seulement la réalité est de droite, mais en plus le peuple est de droite. Cette conviction que le peuple est de droite, elle participe de cette vision d'une gauche complexée ou bien honteuse qui, au fond, est convaincue qu'elle a tort. Alors, ce que je voudrais faire, je ne vais pas développer ça davantage parce que je pense que sur le constat, j'imagine qu'il peut y avoir des divergences et sur l'interprétation aussi, mais malgré tout, sur l'idée que ça ne va pas, je crois que je pourrais réunir un large consensus. Donc ce que je voudrais développer maintenant, c'est plutôt ce que j'ai essayé de faire dans la deuxième partie de cet essai, c'est-à-dire essayer de se donner un peu une prise, justement, puisqu'il s'agit de reprendre la main. Comment on fait pour essayer de se donner une prise sur le cours des choses, et non pas simplement d'avoir cette espèce de jouissance morose qui nous menace quelquefois devant le constat que ça va mal. Je crois que c'est quelque chose, et je fais une très brève digression pour avoir, et nous le présentions également ici il y a une semaine environ, pour avoir contribué à un ouvrage collectif sur Roms et riverains, un des chapitres est rédigé par Serge Guichard, qui est un militant et qui raconte ce que ça fait aux militants, ce sentiment d'être en perpétuelle défaite. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de mener des batailles politiques et de les perdre à chaque fois? Quel est le coût personnel, quel est le coût psychique Et je crois que son expérience n'est pas, malheureusement, exceptionnelle. Je crois que d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, les gens de gauche sont constamment confrontés à cette espèce de menace de dépression dont on se sort parfois, soit en allant cultiver son jardin, soit en se demandant si, après tout, il n'y aurait pas une jouissance à constater le désastre. Donc, ça n'est pas ce que je souhaite faire, et c'est plutôt le contraire. Donc, ce que je voudrais proposer, c'est comme je l'ai fait dans la deuxième partie de ce petit ouvrage, avec trois chapitres qui chacun comporte un titre avec un verbe actif, reprendre la main, changer le peuple et changer le peuple, eh bien, essayer d'imaginer comment le pire n'est pas toujours sûr, même si parfois on est tenté de le penser. La première chose, c'est que la discussion sur le peuple, et je crois que Luc en parle dans son essai également, la discussion sur le peuple, elle est aujourd'hui au cœur des discussions sur la gauche, parce que ce qu'on nous dit de manière récurrente, c'est que la gauche a perdu le peuple et que donc il lui faut reconquérir le peuple. La question, c'est de savoir comment. Donc voilà comment se présente d'ordinaire le débat politique aujourd'hui. Je crois que la première question à se poser, c'est de savoir quel est le rapport de la politique au peuple. Et je propose d'appeler populisme une représentation de la politique qui suppose que la politique est censée refléter le peuple. C'est-à-dire que le peuple préexisterait à la politique et que donc le travail des politiques serait seulement de traduire les demandes populaires. C'est une vision qui, me semble-t-il, n'est pas sans rapport avec certaines conceptions du marché et qui aujourd'hui prévaut sur le marché politique. Je crois qu'il faut renverser la perspective. Non pas se dire que la politique a pour vocation de refléter le peuple, mais que son travail est de produire le peuple. Mais produire le peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, qu'il faut proposer des visions du monde. Et que, puisque nous revendiquons de vivre en démocratie, il est important que ces visions du monde ne soient pas toutes les mêmes. Donc, si on veut qu'il existe quelque chose comme une gauche, il est important que ça ne soit pas la même chose que la droite, et donc il est important que le peuple tel qu'il est représenté par la gauche ne soit pas le même que le peuple tel qu'il est représenté par la droite. Parce que si c'est la même chose, on voit bien, ça donne très exactement le mécanisme que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire cette fuite en avant dans le fait d'essayer de concéder à une vision droitière des choses, à une vision droitière de la réalité, mais aussi du peuple, et c'est cela qui, manifestement, ne marche pas très bien. Donc, la première chose, c'est d'inverser la logique populiste et de considérer que le travail politique n'est pas de refléter une réalité préexistante, mais de produire des visions alternatives du peuple. Et alternative est un élément important, parce que si on est en démocratie et que tout le monde dit la même chose, alors quelle est la différence entre ce qui serait de l'ordre de la démocratie et ce qui n'en serait pas? Je crois que, de ce point de vue-là, tous les appels au consensus me paraissent désastreux politiquement. Comment peut-on considérer que le consensus est une vertu démocratique? La démocratie, c'est pas des gens qui s'entendent bien, c'est des gens qui se disputent. Et je crois que cette défense du dissensus, aujourd'hui, elle est très importante face à l'illusion qui pourrait mener à des espèces de gouvernements d'unité nationale pour lutter contre l'extrême droite, etc. C'est-à-dire quelque chose qui validerait le point de vue de l'extrême droite, selon lequel c'est tous les mêmes. Donc ça, c'est la première chose, renverser en quelque sorte cette logique populiste au sens où je viens de définir le populisme. Mais la deuxième chose, c'est quel contenu à ce moment-là on peut donner au peuple. Eh bien si ce que fait aujourd'hui la droite, c'est d'opposer un peuple qui serait, disons, les classes populaires, de les opposer à un peuple qui serait, disons, les minorités visibles, c'est ce qu'on a vu dans le débat un peu surréaliste qui a opposé Terra Nova disant « vive les minorités et abat le peuple », en substance, je résume, de manière un peu caricaturale, ou bien la version inverse que propose la gauche populaire, à savoir « abat les minorités et vive les classes populaires ». Eh bien, cette vision du monde, elle oppose apparemment des adversaires, mais en réalité, elle les réunit autour d'une même vision, à savoir l'idée qu'il y a d'un côté le peuple et de l'autre les minorités visibles. Or, c'est démenti empiriquement, c'est facile de le remarquer, c'est-à-dire que les classes populaires sont loin d'être uniformément blanches, et en revanche, les minorités visibles, eh bien, très souvent, elles s'inscrivent dans les classes populaires. Donc, l'idée qu'il faudrait choisir une cause ou bien l'autre me paraît démentie empiriquement. Mais, pendant longtemps, j'ai pensé que la réponse à donner à ces questions, c'était de souligner surtout le fait que après tout, on peut faire deux choses. On peut faire à la fois des politiques qui soient des politiques de redistribution, et on peut faire aussi des politiques qui soient des politiques de reconnaissance. C'est une opposition aujourd'hui classique dans les réflexions sur tout cela. Je pense qu'en même temps, cette vision des choses est partielle. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on peut constater aujourd'hui quand même, c'est que très souvent, ceux qui ont des discours ou ceux qui ont des pratiques politiques hostiles aux minorités, eh bien, dans le même temps, ils ne sont pas très favorables aux classes populaires. Je vais prendre un exemple personnel, si je puis dire, pour avoir été depuis 48 heures plongé dans une controverse autour de la question des Roms, et donc en petite polémique avec le directeur adjoint de Libération, Éric de Couty. J'étais très frappé de voir que son discours, qui pour moi participait d'un déni en ce qui concernait les Roms, me semble très exactement s'inscrire dans la même logique, c'est-à-dire un déni en ce qui concerne la politique économique, puisque son éditorial d'aujourd'hui explique que, eh bien, il y a un virage à gauche qui se fait grâce à l'élection de Juncker. Je vous assure, l'expression virage à gauche est dans l'éditorial. Donc, je pense que là, c'est rassurant, c'est-à-dire que ça aide ceux d'entre nous qui n'ont pas envie de choisir entre les logiques qui seraient, disons, le souci des questions minoritaires et le souci des questions économiques entre, par exemple, les Roms et, par exemple, les classes populaires. Donc, je crois que changer le peuple, eh bien, c'est ça que ça peut vouloir dire. Changer le peuple, c'est non seulement changer le rapport entre la politique et le peuple, mais c'est aussi proposer donc une autre vision de ce que c'est que le peuple. Et donc ça, c'en est un exemple. Mais évidemment, ça suppose, et j'accélère pour terminer bientôt, ça suppose de changer de vocabulaire, et c'est là, me semble-t-il, que la bataille idéologique se joue. Un exemple que je trouve utile de prendre, parce que finalement j'étais assez content d'arriver à ces formulations simples, c'est autour de l'immigration, sujet sur lequel je me suis à la fois engagé, mais sur lequel j'ai travaillé pendant ces dernières années, donc sur les politiques d'immigration. On voit bien qu'il y a une bataille de langage entre des gens qui disent que l'immigration est un problème, et ça c'est le langage qui s'est imposé, qui bien sûr vient de l'extrême droite, mais qu'on retrouve très largement et bien au-delà de la droite, et une autre vision qui passe du verbe être au verbe avoir, selon laquelle dans l'immigration il y a des problèmes. La distinction de langage assez simple me paraît avoir une utilité, parce que ça permet de se représenter, par exemple, que quand on parle du chômage, personne ne dirait que dans le chômage il y a des problèmes. Tout le monde serait d'accord pour dire que le chômage est un problème. Si en revanche je vous parlais de l'école, je crois que peu de gens, même si on a pu le dire à d'autres époques, peu de gens aujourd'hui diraient que l'école est un problème. En revanche, tout le monde s'accorderait à dire qu'il y a des problèmes. Donc en fait, il est important de savoir si on met l'immigration du côté du chômage ou si on met l'immigration du côté de l'école. Et ça dessine la possibilité de penser la différence entre une politique de droite et une politique de gauche. Ces batailles de vocabulaire, je crois qu'elles sont aujourd'hui très importantes. Je ne vais pas prendre d'autres exemples pour ne pas prendre plus de temps. Je termine sur un point. Le dernier chapitre de ce petit livre s'appelle « Changer de peuple ». Expression prometteuse et quelque peu provocatrice. Changer de peuple, ça veut dire quoi, dans le sens du moins que je propose ici. Si on considère que être de gauche aujourd'hui, manifestement, ne suffit pas à rallier les majorités électorales. Et je crois que la plupart d'entre nous ne nous attendons pas à ce qu'il y ait une sorte de renversement immédiat des rapports de force politiquement à très très court terme. Alors en même temps, je pense, je ne vais pas le développer tout de suite, mais peut-être dans la discussion, je pense, pour avoir été de ceux qui soutenaient récemment l'hypothèse Syriza, c'est-à-dire l'idée que si, comme en Grèce, le Parti Socialiste finissait de s'effondrer, ce qui pourrait bien arriver, ça changerait un peu la donne et ça amènerait à imaginer autre chose à gauche, et que donc ça reconfigurerait le paysage. Et l'exemple grec de ce point de vue-là me paraît intéressant, puisque ça affecte non seulement le Parti Socialiste, non seulement Syriza, mais ça affecte aussi l'extrême droite, qui somme toute, bien qu'elle soit très radicale, représente à peu près trois fois moins de gens qu'en France. Et enfin, la participation électorale aux dernières élections était supérieure de 13 points à ce qu'elle est en France. Donc on peut dire qu'après tout, quand il y a une droite qui s'oppose à une gauche, eh bien ça peut changer la donne, mais que la condition de possibilité, c'est qu'une gauche qui n'est pas une gauche ait fini de s'effacer. Donc c'est pour moi l'idée que effectivement il y a une sorte de cadavre encombrant aujourd'hui à m'aider, on commence à s'en débarrasser. Donc, mais je reviens à l'hypothèse de changer de peuple. Changer de peuple, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que tant qu'on est minoritaire, il faut essayer de donner l'impression qu'on est majoritaire. Alors c'est un peu une illusion, me direz-vous, mais je crois qu'on a un exemple qui est très parlant, aux États-Unis d'abord, puis en France. Aux États-Unis, ce qu'on a appelé dans les années 80 la moral majority, c'est-à-dire cette majorité morale qui n'était pas forcément morale, mais en tout cas qui n'était pas majoritaire, a réussi à peser de manière disproportionnée sur la politique états-unienne pendant plus de 30 ans. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous montre qu'il n'y a pas besoin d'être une majorité pour définir les termes du débat. C'était pas si compliqué à trouver, il suffisait de regarder le Front National. Mais si vous regardez un autre exemple plus récent en France, celui de la Manif pour tous, vous voyez bien qu'à certains égards, des gens qui étaient une poignée déterminée, une grosse poignée me direz-vous, mais malgré tout qui ne représentaient certainement pas une majorité, ont réussi petit à petit à retourner les choses et à imposer leur agenda, comme on dit plutôt en anglais. Donc là, il y a une leçon intéressante, me semble-t-il, à tirer de tout cela, c'est le fait que la politique, ça ne suppose pas uniquement d'être majoritaire, ça suppose aussi de donner le sentiment comme majoritaire. L'hégémonie, c'est bien comme ça que ça s'acquiert, c'est en donnant le sentiment que finalement, on est obligé d'être d'accord avec nous. Donc cette bataille, qui est entre autres une bataille de langage, je crois qu'elle peut se jouer autour d'une notion que je propose de définir, qui s'appelle le public. C'est quoi un public? Eh bien, je propose l'idée que c'est des gens mobilisés autour d'une cause. Mais le terme le plus important, c'est mobiliser, même si le terme de cause est important également. Mobiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit de peser plus que son poids réel. Donc, arriver à se faire entendre plus que ce qu'on représente statistiquement, électoralement, etc. Encore une fois, les exemples de la droite, etc. sont importants, mais pourquoi choisir le terme de public? Eh bien parce que précisément, je crois qu'aujourd'hui, et je termine en deux minutes, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu constater avec tous les débats sur François Hollande, est-il social-démocrate, assume-t-il de l'être, est-il social-libéral, ou que sais-je encore, ce qu'on a pu constater, c'est en fait que s'imposait une logique qui est celle du néolibéralisme. Et le néolibéralisme, eh bien ça n'est pas seulement le fait ce serait du super-libéralisme. C'est pas simplement une exacerbation d'une logique qui séparait l'État du marché. Bien au contraire, on voit dans le néolibéralisme que l'État s'implique dans le marché, qu'il est un acteur majeur, qu'il s'agisse de sauver les banques, qu'il s'agisse de redistribuer de l'argent vers les entreprises, etc. La caractéristique de cet État, bien sûr, c'est qu'il est au service du patronat, des marchés, etc., mais il n'est pas en dehors de l'économie. Mais ça veut dire que du coup, ça veut dire quoi public aujourd'hui? Puisque nous avons tendance à penser que public égale État, ça c'est dans le fonctionnement libéral. Dans le monde libéral, l'État et public, c'est du même côté. C'est un peu plus compliqué dans le monde néolibéral. Ça ne veut pas dire que l'État n'ait rien à voir avec le public, mais ça veut dire que le public n'est pas forcément du côté de l'État, et que l'État n'est pas forcément du côté du public. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est important d'essayer de penser le public à partir des gens qui ne sont pas engagés dans une politique gouvernementale, c'est-à-dire les élections, mais aussi du côté de ceux qui sont engagés dans une politique non gouvernementale, c'est-à-dire tout le reste. Eh bien, tout le reste, ça peut se construire autour de causes qui peuvent peser de manière disproportionnée. Et je prendrai une autre comparaison aux États-Unis. Vous savez que la télévision publique aux États-Unis ou la radio publique ne sont pas publiques au sens où on l'entend en France, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas, pour l'essentiel, financées par l'État. Elles sont financées très largement par les gens. Les gens qui envoient de l'argent, non seulement parce qu'ils aiment bien regarder telle ou telle émission ou écouter telle ou telle émission, mais aussi parce qu'ils ont envie que ça existe. Ils ont envie que existe cette télévision publique, c'est cette radio publique. De ce point de vue-là, je prenais l'exemple dans cet ouvrage, et je termine là-dessus, de Mediapart. Je crois que beaucoup de gens s'abonnent à Mediapart aujourd'hui, pas simplement parce qu'ils aimeraient bien lire tel ou tel article, pas simplement parce qu'ils aimeraient savoir ce qu'il en est de tel ou tel scandale, puisqu'on les retrouve le lendemain dans la presse. Donc c'est pas ça le but du jeu, c'est pas une logique de clientèle, c'est pas acheter des biens, c'est en fait cotiser pour l'existence de quelque chose qui fonctionnera comme un contre-pouvoir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à Mediapart sans le lire, ce qui me paraît une excellente chose, même si c'est bien aussi de le lire. Mais je crois que c'est très important qu'on puisse se dire que c'est pas simplement pour acheter le contenu, mais c'est aussi parce qu'on juge qu'il est souhaitable qu'existe de telles institutions. Et je crois qu'on voit se répandre ça aujourd'hui avec tous ces financements participatifs, ce crowdfunding, c'est-à-dire la possibilité de mettre de l'argent là où on pense qu'il serait bien que quelque chose existe, faire exister des choses. Eh bien, c'est ça, se mobiliser autour de causes. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, une des manières de ne pas désespérer de la politique, c'est de ne pas tout espérer de la politique, entre guillemets, gouvernementale, c'est-à-dire des partis, des élections, etc., mais de compter, en fait, sur ce qu'on peut faire, quand bien même on ne serait pas élu. C'est pas incompatible, mais en même temps, il me semble qu'on a peut-être plus de chances que les politiques aillent dans le sens où on aimerait qu'ils allassent, si on les incite à y aller, c'est-à-dire s'il est plus coûteux pour eux de ne pas nous écouter que de nous écouter. Merci.
Je cherche l'angle mort à la barbe des miradors. La voie dérobée, le coin de cloison est prêché. Le souterrain mal fouillé dont les sentinelles ont égaré la clé. Ma presse à faux passeport, mon billet pour le Grand Nord. Mes propres boîtes de Pandore, boîtes noires et caisses d'or. Mes fumigènes, mes fumivores, échappés au signalement. Sous la pushka de mes 30 ans, dans la nuit des morts vivants. Parmi les leurres des écrans, je cherche l'angle mort. Le vrai bug, le fort accord.
Donc toujours à l'écoute de Radio Canu, Radio Rebelle, et de l'émission Angle Mort, émission de critique sociale et de sciences sociales critiques. On vient de s'écouter donc une intervention d'Éric Fassin, sociologue, professeur de sciences politiques à l'université Paris 8, qui avait eu lieu donc cette intervention le 26 juin 2014 et qui était organisée par la société Louise Michel, c'était d'un an et demi environ. Donc pour rappel, hein, je l'ai déjà dit en début d'émission que en fait cette intervention était suivie d'une autre le même jour, juste après, de Luc Boltanski, donc sociologue, et intervention donc on écoutera la prochaine fois là, voilà, pour passer un peu de musique et puis pour pas donner trop de choses à méditer d'un seul coup, même si les deux parlent de la même chose et se croisent sur plusieurs aspects. Avant de peut-être, je sais pas encore si je vais y arriver, mais de discuter peut-être quelques points ou de revenir sur quelques points, on se fait une petite pause musicale, voilà, avec j'ai pas calé encore pour l'instant. Si on remettait du Portobello Bones, on l'a déjà entendu en début d'émission, et j'ai bien envie de le réécouter. Pas la même chanson, bien sûr, mais cette fois, ça sera Burning the Flag.
À la périphérie des gens,
au cœur des poudrières.
It is a big unit. It may be further away than we think.
No, it's not very far. It was just right beyond you.
And we better press on to the big boulder.
Je sors le soir et promène mon ulcère en quête d'un peu d'air pur ou d'un coin calme où m'asseoir. Si je marche sans faire d'histoire, limpide et sans mystère, il n'est pas rare que j'entende contrôle d'identité. Bonsoir. Non, je ne vais nulle part et puis je n'attends personne. Alors à quoi on me compare et de quoi on me soupçonne?
Allez, toujours à l'écoute de Radio Canut. On vient de s'écouter Portobello Bones avec Burning the Flag. Et donc je voulais revenir un petit peu sur la conférence qu'on vient d'écouter d'Éric Fassin. Bon, il y a déjà un point, c'est sûr que bon, je n'ai pas forcément envie de discuter parce que je connais pas trop, mais c'est vrai qu'au final, sur la fin de sa conférence, on a l'impression qu'il donne beaucoup d'importance au financement participatif comme vecteur de mobilisation, de renversement de la vapeur, crowdfunding, etc. pour une mobilisation autour de causes et pour créer des nouveaux publics finalement. Voilà, bon, ça c'est sûr que si l'alternative c'est de financer Mediapart, ou même si c'est des choses intéressantes, j'ai pas envie de faire dans la distinction révolutionnaire, nous on est mieux, etc. etc. Mais c'est vrai que ça peut peut-être paraître un peu en retrait, je trouve, par rapport à peut-être l'intérêt plus général du propos. Moi, c'est vrai, ce qui m'a intéressé pas mal dans cette conférence, c'est notamment ce fait d'insister sur cette importance de la bataille de vocabulaire, de la bataille idéologique, et notamment pour produire les représentations de ce qu'est le peuple et arriver à résister aux représentations droitières du peuple qui vont opposer le vrai peuple, le bon peuple, comme le peuple en fait des hommes français. Certes, on va souvent représenter là des gens de catégorie populaire, mais en tout cas ils font partie du bon peuple à partir du moment où ils sont français, a priori entre guillemets respectables, ce qui est souvent une foutage de gueule. Voilà, opposer ce bon vrai peuple avec un faux peuple qui serait ce qu'il appelle donc les minorités visibles, donc tout ce qui est stigmatisé, hein, que ce soit les Roms, les prostituées, etc. Ça ne fait pas partie du peuple. Dans les représentations droitières du peuple, c'est une perversion du peuple, etc. Et aussi ce que ça renvoie, et ça, enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la conférence de Luc Boltanski, vous pourrez l'entendre la prochaine fois, cette thématique du bobo dont on a déjà parlé aussi, dont j'ai déjà parlé sur Angle Mort. Alors je renvoie, c'est l'émission, je l'avais noté sur un petit bout de papier, l'émission du 6 avril 2014, hein, que vous pouvez réécouter sur notre blog, où j'avais notamment, je m'étais appuyé sur un texte de la sociologue Sylvie Tissot sur cette question. Et c'est vrai que pareil, ce thème du bobo, c'est-à-dire du bourgeois bohème, est aussi participe de ces représentations droitières de la société, c'est-à-dire qu'elle contribue très souvent en fait à opposer des gens qu'on va renvoyer du côté des bourgeois bohèmes, donc et notamment en fait c'est indéfinissable, c'est quelque chose de très flou, on sait pas trop ce que c'est, mais de plus en plus en fait ça vient s'appliquer à tout ce qui pourrait être mode de vie alternatif, tout ce qui pourrait être revendication écologiste, tout ce qui pourrait être souci de solidarité pour les gens qui sont dans le besoin, etc. Ah bah là, si on commence à vouloir aider, à vouloir être généreux, c'est qu'on est un bobo. Ou un parisien, hein, ou un intellectuel, efféminé, etc. Ce genre de choses, ce genre de représentation. Qui, si on parle surtout de bobo, c'est que ce qui est d'autant plus gênant, c'est que cette catégorie, on la retrouve beaucoup, en fait, aussi à gauche, reprise. Alors, des moments pour par autodérision, mais aussi souvent, voilà, pour caricaturer certaines personnes qui habitent dans certains quartiers. Et c'est, derrière la caricature, il y a des choses importantes de critique, hein, de voilà, on peut, mais en fait on peut se passer de ce terme de bobo, on peut critiquer voilà l'hypocrisie de certaines personnes qui se sentent supérieures et derrière un engagement de façade en fait ne font rien et puis continuent de consommer à tout va, voilà, donc ça, il y a des vraies critiques derrière, mais en fait on n'a pas forcément besoin du terme de bobo qui revient en fait à opposer d'un côté la gauche qui serait bobo et de l'autre côté le vrai peuple qui serait de droite et seul, voilà, et donc je pense qu'il faut faire gaffe à ça, et derrière cette intervention on a ce genre de réflexion, comment c'est-à-dire que la bataille de vocabulaire et les représentations du monde, les représentations de la société, les représentations du peuple sont un lieu stratégique, central pour reconquérir une forme, renverser la vapeur et voire conquérir une hégémonie un peu idéologique sur certaines questions. Voilà. Après, il y a un autre. Voilà, c'est aussi. Ça serait comment arriver à. Comment arriver à ce que les questions qui obsèdent ce soient pas celles qui font aujourd'hui la une, mais les questions qui sont passées à travers, dont on ne parle plus. Et ça, voilà, par des mobilisations, par peut-être un reprise en main du mouvement syndical qui remettrait des questions comme les retraites, comme les conditions de vie en avant. Et là, on se rendrait compte qu'en fait, les gens qu'on croit souvent très droitiers, très et qu'ils le sont sur les questions d'immigration, etc. Bah, en fait, dès qu'on arrive à faire mettre d'autres questions en avant, bah en fait on les tire vers le haut et on obtient autre chose d'eux, et des fois on peut être surpris aussi et on peut créer après de nouvelles solidarités, défaire des idées reçues, etc. Donc il y a à la fois se battre sur les produire un contre-discours sur toutes ces questions qui nous emmerdent de l'immigration clandestine machin blabla, les réfugiés blabla blabla, où on a l'impression que des moments l'extrême droite se retrouve, se réinvente féministe, c'est marrant de voir ça, parce que c'est ce qui est une grosse escroquerie pour toutes les prises de position qui tiennent par ailleurs. Et voilà, donc il y a ça, comment renverser. Après, là aussi où je trouve il y a une limite peut-être dans le discours d'Éric Fassin, c'est qu'au-delà du travail idéologique de produire des représentations alternatives du monde, il y a une autre question moi qui m'obsède aussi d'une certaine manière et que je ne sais pas trop comment, parce que justement je vois pas trop de possibilités, mais ça me semble central, c'est comment au-delà des visions du monde alternatif qu'on produit, comment on arrive à les disséminer, quoi. Comment on arrive à convaincre les personnes. Donc là-dessus, je pense qu'on devrait avoir, en tout cas moi, ce qui me concerne, une autocritique à faire, hein, une manière d'être fatigué au bout d'un moment et de ne côtoyer que des gens qui ont à peu près les mêmes idées et de rester en vase clos, du coup. Voilà, mais au-delà de cette autocritique, oui, je crois qu'il y a des choses à inventer pour parvenir à sortir les discours critiques de leur enclos toujours plus qui apparaît toujours plus réduit au sein du corps social, parfois qui apparaît aussi même de plus en plus réduit dans une enceinte universitaire qui elle-même est en crise et qui elle-même touche de moins en moins en fait les positions critiques dans l'université. Ça passe par des filières généralistes qui une forte tradition critique, mais qui intéresse de moins en moins parce qu'il y a la pression du chômage, etc. Et du coup les étudiants, ce qu'ils veulent avant tout, c'est être sûr, enfin, pas tous les étudiants, mais certaines fractions étudiantes et malheureusement des fractions populaires aussi, attendent avant tout des études, d'avoir un diplôme, de ce qui est une arnaque en général, mais bon. Et du coup, c'est vrai dès qu'il y a un discours un peu critique, généraliste, qui n'a pas a priori d'utilité directe pour la professionnalisation et blabla, eh bien ça n'intéresse moins. Et du coup, voilà, le discours critique a du mal à se disséminer dans le corps social. Et c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il y a une réflexion à mener. Hein, réflexion à mener aussi sur, je pense, une sorte d'entraînement mental pour à la fois résister à l'idéologie dominante, c'est pas toujours évident, pour aussi réussir, je pense qu'il y a un entraînement intéressant à faire, c'est pour réussir à éviter les caricatures qu'on nous donne, éviter de s'enfermer dans ces caricatures. C'est vrai que moi j'ai pas mal fait l'expérience de, dès qu'on va parler avec des gens de d'autres milieux sociaux, quand notamment populaires, quand pour autant on en vient, mais qu'on a fait des études et qu'on on perçoit comme on apparaît comme un intellectuel de l'extérieur, on a le stigmate de parisien, alors même quand on habite à Paris, c'est bizarre. Et des fois, quoi qu'on dise, même si on sort les arguments les plus les plus percutants ou les plus, enfin ça c'est pas très humble, mais voilà, bah peu importe, de toute façon on est toujours perçu comme un intellectuel qui va essayer de nous retourner le cerveau et ça marche pas. Et donc voilà, il faudrait réussir aussi à anticiper et déminer ces caricatures qui sont diffuses dans le corps social et qui font que tout discours un peu critique est vite caricaturé comme bobo, voilà, par exemple, pour en revenir à ce thème-là. Et là, je crois que voilà, il y a des réflexions aussi à mener là-dessus. Après, un autre point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est la question du dissensus. Éric Fassin, à un moment, parle du dissensus, ou dit que la démocratie, c'est le dissensus. Bon, derrière ça, ce qu'il veut dire, c'est que il critique le fait que dans une grande partie de la gauche institutionnelle, on va retrouver les représentations justement droitières du monde. Et il invite à retrouver des visions alternatives, s'opposer. Il faut arrêter avec ces consensus. C'est aussi une critique derrière de ce qu'il le dit, il le dit explicitement, hein, de tous ces appels d'union nationale contre l'extrême droite, etc. Non, c'est pas par ça qu'on va en sortir. Il faut retrouver le dissensus. Après, donc l'opposition. Après, c'est vrai qu'à un autre niveau. Si on raisonne plutôt au niveau des chapelles, différentes chapelles de gauche radicale, de gauche que ce soit trotskiste, libertaire, communiste, et j'en passe, là-dessus je crois qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il faut retrouver une forme aussi peut-être de consensus dans la situation actuelle, non pas dissimuler les désaccords, non pas faire en tout cas réussir des moments sur certaines choses à faire la part des choses il y a des désaccords qui empêchent clairement d'agir ensemble et il y en a d'autres qui doivent pas empêcher d'agir ensemble pour renverser le rapport de force, et ça je crois que c'est aussi une réflexion qu'on devrait commencer à réussir à mener pour inverser cette logique actuelle de fuite en avant dans la scission de chapelle en sous-chapelle et sous-sous-chapelle. Réussir à mettre à distance certaines oppositions qui, des fois, derrière l'opposition idéologique, il y a quand même des petits conflits de personnes mal assumés et qui, en fait, on pourrait mettre ça de côté. C'est pas une éthique catho, on est tous gentils, que j'ai envie de diffuser, pas du tout, c'est pas ça, mais effectivement retrouver des points d'accord entre différentes chapelles sur des qui pourraient inviter à des luttes communes, quoi. Voilà, c'était les quelques réflexions que j'avais moi en écoutant cette conférence d'Éric Fassin, vous en faites ce que vous voulez, moi. Et puis on va s'écouter un petit peu de musique, il est 55, donc il nous reste 5 minutes avant de laisser la parole aux copains et copines de la causerie. Et puis, qu'est-ce que je voulais passer? Ah, bah Kakistocratie de l'anarcho... non, c'est parce que j'ai peut-être un petit problème là. Ça y est, c'est remis. Kakistocratie, anarcho-punk américain, je crois, avec le titre « A Nation Lives in Fear ». Toujours à l'écoute de Radio Canu, émission Angle Mort qui se termine avec le titre Babylon's Burning des Ruts. R-U-T-S. Et tout de suite, la causerie. Balance bonnet, your bonus.